Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition.
Allumage des propulseurs.
And lift off.
Et décollage.
The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
L'équipage d'Artemis 2 prend maintenant la direction de la Lune. Voilà, cette fois c'est fait. Artemis 2 a bien quitté la Terre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Le mois dernier, un contretemps indépendant de ma volonté ne m'avait pas permis de vous proposer cette émission. La voici donc aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 234e émission d'À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et l'astronautique, chaque troisième dimanche du mois, de 13h à 14h. Une émission qui a pour marraine Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et pour parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et présentée par moi-même Franck. Le mois de mars, nous vous proposions d'aborder Artemis 2 avant son lancement, à travers le regard de celles et ceux qui s'apprêtaient à vivre l'événement au plus près depuis la Floride. Cette fois, le décollage a bien eu lieu, la mission s'est déroulée avec succès et il est temps d'en revenir ensemble sur ces grands moments, sur ce qu'elle a représenté et sur ce qu'elle change pour la suite du retour vers la Lune. Le thème de cette émission s'intitule donc « Artemis 2, retour sur une mission historique ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Jean-François Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Après ce décollage, ce voyage autour de la Lune et le retour sur Terre, quel est, avec un peu de recul, le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit pour résumer Artemis 2 ?
Je viens de regarder, il n'y a pas très longtemps, à 92 ans, Jim Kranz, qui était plein d'émotions, puisqu'il était aux commandes d'Apollo 13, d'Apollo 11, il a même vécu Challenger, et il était tellement heureux que ça résume tout de la mission, je pense. C'était fabuleux, s'il fallait dire un mot.
Jean-François Pellerin, pour les auditeurs qui ont suivi cela de plus ou moins loin, pouvez-vous nous raconter les grandes étapes de cette mission du décollage jusqu'à l'amérissage ?
Oui, alors ils ont décollé le 1er avril, à tel point qu'il y en a qui pensaient que c'était un poisson d'avril.
Oui.
Et donc 54 ans après Apollo 17, donc un très très beau décollage avec la séparation des boosters, parce que si on compare Saturne V n'avait pas de booster, hein, et ils sont partis de zéro pour développer les moteurs, les étages, tandis que là, c'est un système fondé sur des moteurs de la navette spatiale. Chaque moteur a volé au moins une dizaine de fois chacun. Donc on est sûr de la fiabilité des moteurs, ils ont déjà volé pour décoller. Donc il y a deux boosters qui sont inspirés de ceux de la navette, mais il y a un segment qui est mis par-dessus. Et 74 ou 75% de la puissance, c'est les boosters.
D'accord.
Alors, 1er avril, ils sont montés très très haut pour pouvoir faire des tests. Et ils sont restés 24 heures autour de la Terre avant de partir vers la Lune. Ils ont même fait un essai un peu comme Apollo 9. Ils ont sorti le module, ils sont venus se rattacher. Et tout ça en grandeur réelle avec les alunisseurs, ça se fera avec Artemis 3.
Et donc,
j'ai oublié de vous donner l'altitude. Ils sont placés la première journée à une altitude énorme d'apogée pendant 24 heures de 70 000 km d'altitude.
Avant d'aller plus loin, Jean-François Pellerin, rappelons peut-être le nom des quatre astronautes qui composaient l'équipage d'Artemis 2. On a le premier afro-américain, et puis il y a une femme aussi.
Oui, oui. Donc c'est des spécialistes de mission. C'était la volonté, je crois, à l'époque de Joe Biden, de pouvoir faire partir une femme autour de la Lune, Christina Koch, qui a un sacré curé comme vitae, puisqu'elle a vécu pratiquement un an à bord de l'ISS. C'est le record féminin. Et il y avait Jeremy Hansen, qui est le Canadien, et celui qui est homme de couleur, c'est Victor Glover, qui était pilote, et le commandant Reid Wiseman. Donc après, ils ont mis 3-4 jours pour arriver dans la sphère de gravitationnelle lunaire, où ils rentrent dans le domaine lunaire. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une trajectoire de libre retour, un peu comme Apollo 13, mais Apollo 8, ils s'étaient mis en orbite. Là, ils ont fait une trajectoire de retour qui permet de revenir assez rapidement vers la Terre, mais il n'y a pas de mise sur orbite, et ils sont montés, Apollo, c'était 100 km d'altitude, là, ils sont montés à 6500 km.
Oui, voilà, ils n'ont pas fait plusieurs fois le tour de la Lune, comme pour Apollo 8.
En revanche, Apollo 8, ils... c'était une dizaine d'orbites.
Voilà.
Et là, oui, ils ont fait le tour au moment où ils survolent la face cachée. C'est assez angoissant parce que vous avez 40, 41 minutes de blackout où on ne peut pas parler avec eux. Et ça a rappelé des vieux souvenirs à Gene Kranz, et ça a rappelé des souvenirs à toute la génération Apollo, quand il y avait Apollo 8, Apollo 13. Est-ce que vous savez que le vol le plus court d'Apollo, c'est le 13, où ça a duré que 6 jours, et Apollo 17 a duré 14 jours.
Il y a eu des petits soucis après le décollage, Jean-François Pellerin, pas bien grave, hein, mais il y avait des problèmes de toilette.
Ah oui, oui, mais deux fois même. Il y a eu des problèmes de soucis canalisation, notamment. Donc imaginez 4 personnes enfermées dans 9 mètres cubes pendant 10 jours. Il y a eu deux pannes de WC, de toilettes à bord. Et c'était arrivé avec Thomas Pesquet. Mais bon, ils ont une sécurité, hein. Sur les Falcon, je sais pas si c'est pareil Artemis, ils ont des couches.
Et quand Artemis a tourné autour de la Lune, Jean-François Pellerin, ça a donné l'occasion de faire de magnifiques photos.
Oui, ça a rappelé Bill Anders qui a pris la photo du lever de terre à travers le hublot. Et puis c'était des moyens photos il y a plus de 50 ans, hein. Il y a plus de 55 ans même. Et il y a eu des petites erreurs dans la presse et notamment sur Internet. Ils ont montré la photo de la Terre au-dessus de la Lune, mais c'est pas un lever de Terre, c'est un coucher de Terre. Et on a vu pas mal d'erreurs sur ce sujet. Mais c'était splendide, on avait l'impression de replonger dans l'époque Apollo.
Et ensuite, Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain de cette émission À toi les étoiles. Nous parlons d'Artemis 2, on fait un bilan. Après avoir contourné la Lune, ils ont profité de cet effet de fronde pour revenir vers la Terre.
Voilà, ils ont fait l'équivalent d'Apollo 13, qui avait très peu de réserves d'oxygène suite à l'explosion d'un réservoir. Il y en avait deux dans le module lunaire et un dans l'autre module. Et ils ont fait un vol seulement de 6 jours. Et en urgence, ils ont fait le tour de la Lune, libre retour. Et là, Artemis 2 a fait la même chose, mais à 6500 km d'altitude et non pas 100 km. Mais ça catapulte, en fin de compte, ça vous donne un effet gravitationnel où vous augmentez en vitesse. Alors, il faut pas oublier de dire qu'ils ont battu le record du monde du véhicule habité le plus loin de la Terre, 406 000 km. Et le dernier record, c'était Apollo 13, 400 170 km. Et les autres, c'était 406 000 km. Donc ils ont battu ce record de 6 000 km.
Et puis, nous avons ensuite le retour sur Terre, Jean-François Pellerin, l'amérissage. Alors, le retour sur Terre était délicat, hein ?
Oui, c'est délicat, le retour dans l'atmosphère, parce que le mal d'Orion, depuis le vol automatique, c'est le bouclier thermique. Si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des photos du bouclier, il manque tout un bout de paroi. Et le directeur de vol n'était pas 100% confiant. Il savait qu'il pouvait y avoir un pépin. Et On a comparé le bouclier du vol Artemis 1, mais les deux sont touchés et il y a des morceaux qui sont décrochés. Et ils ont une rentrée atmosphérique, il y a un blackout de 6 minutes qui est stressant comme celui d'Apollo 13. Et les gens sont heureux de réentendre leur voix parce que c'est la période la plus dangereuse. Donc c'est le maillon faible des vols Artemis vers la Lune, c'est le bouclier de la capsule. Mais vous savez que la capsule Orion et la fusée, ça remonte à l'époque du projet Constellation, ça remonte presque à la période de George Bush. Et ils ont repris des choses du projet George Bush qui imaginaient, mais c'était très cher à gérer, qui imaginaient une station au sol, comme en Antarctique, une base lunaire. Bon, ils ont repris ça, mais avant, il y a eu une décision de faire une station orbitale autour de la Lune, et rapidement, ils ont tout abandonné pour mettre la priorité à une base sur la Lune, au pôle Sud. Et les seules choses qu'ils ont gardées du projet Constellation de l'époque, c'est Orion, la capsule, et le Space Launch System, la fusée.
Une fois que la capsule entre dans l'atmosphère, elle freine et puis des parachutes se déploient pour ralentir sa vitesse. Et puis elle amerrit sur l'océan, donc elle flotte sur l'océan. Il y a des bateaux de récupération qui viennent, mais ils ne s'approchent pas tout de suite de cette capsule. Ils tournent autour pendant un moment. On voit qu'ils analysent d'ailleurs le taux de gaz, puisqu'il y a du gaz qui entoure la capsule.
Et qui voilà, l'hydrazine, notamment. L'hydrazine, ça peut passer à travers le tissu humain. Donc, vous voyez, et ça rappelle la navette spatiale. Quand il y avait une navette spatiale qui redescendait, il fallait presque attendre une heure pour débarquer les astronautes. Et il y avait des gens avec des masques à oxygène qui se protégeaient et qui venaient faire des mesures pour pouvoir prévenir l'équipage et dire « c'est bon, vous pouvez sortir ». Et là, ça a été assez long. Ils avaient prévu une heure ou deux heures dans la capsule au-dessus de la mer, là, en flottaison. Et en fin de compte, ils ont trouvé une nouvelle méthode par rapport à Apollo. C'est un grand canot de sauvetage, un peu forme hexagonale, qui permet de laisser beaucoup de place à quatre astronautes, parce qu'Apollo c'était trois, et le canot de sauvetage Apollo était quand même sacrément petit, ils se tassaient les uns sur les autres, tandis que là, il y avait plein de personnes, il y avait les hommes grenouilles, et puis plein de sauveteurs, donc ça c'est une différence par rapport à Apollo dans l'amérissage.
On n'a pas parlé...
Alors il y a élitreuillage, alors qu'il avait été étudié de tirer et de ramener la capsule sous un bateau où il y a une flottaison, il y a de l'eau, et faire un système de d'écluse pour évacuer l'eau, et ils auraient pu sortir à pied sec dans le bateau. Là, ils ont fait comme Apollo, ils ont fait l'hélitreuillage, et plusieurs hélicoptères les ont ramenés sur le pont du bateau.
Jean-François Pellerin, durant cette mission Artemis 2, il y a eu plein de moments forts. Parmi tous les temps forts de la mission, quel est celui qui vous a le plus marqué? Le décollage, le trajet vers la Lune, le survol lunaire ou le retour sur Terre?
Je pense pas que ce soit le décollage, parce que on l'a déjà vu en grandeur réelle avec Artemis 1, mais bon, c'est splendide à voir. Mais elle est légèrement plus petite qu'une Saturne 5, 98 mètres au lieu de 111 mètres. En puissance de décollage, elle est moindre que Saturne 5, et surtout, c'est des éléments de récupération. Ils sont pas partis de zéro, alors que Saturne 5 avec Von Braun, ils sont partis complètement de zéro, et les moteurs à forte poussée comme ça, hydrogène ou oxygène liquide, c'était une première. Donc le décollage, oui, on peut dire que c'est quand même beau. Quand on voit les images de la séparation des boosters, qui sont des boosters beaucoup plus hauts que la navette spatiale, c'est impressionnant. Parce que, elles se séparent. Heureusement qu'elles ne s'entrechoquent pas. C'était arrivé avec une fusée Soyouz. Et après, je pense que c'est toute la période du go pour aller vers la Lune, et puis tout le tour de la Lune, Et puis l'angoisse du blackout de la face cachée, et puis toutes les photos qu'ils nous ont envoyées, mais je pense qu'il y a encore des photos en cours de le tour de la Lune. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis 54 ans.
Et oui, plus d'un demi-siècle sans retourner autour de la Lune. Ça fait des années, hein. Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, pour cette 234e émission, nous revenons sur Artemis 2 dans une émission intitulée Artemis 2, retour sur une mission historique avec Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. On marque une pause musicale et juste après, nous verrons pourquoi cette mission a naturellement rappelé Apollo 8, en quoi elle est d'ores et déjà historique et ce qu'elle a permis de valider pour la suite du programme lunaire. Voici Coldplay avec A Sky Full of Stars.
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, pour cette 234e émission, nous parlons d'Artemis 2 dans une émission intitulée Artemis 2, retour sur une mission historique avec Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, on a beaucoup pensé à Apollo 8 en suivant Artemis 2. En quoi cette comparaison vous paraît-elle justifiée ?
La comparaison, une chose de différente, c'est qu'il y a eu une mise sur orbite avec Apollo 8 et 10 tours de Lune. Tandis que là, ils ont fait un retour à la méthode Apollo 13. Mais ce qu'il y a d'équivalent, c'est qu'on fait un vol habité translunaire, comme le premier Apollo 8, avec une différence, c'est qu'Apollo 8, pourquoi ils ont fait Apollo 8 ? C'est parce qu'on savait que des fusées se préparaient, notamment avec des animaux. Et il y a eu des tortues soviétiques autour de la Lune, et on n'était pas loin de faire décoller un bonhomme pour aller autour de la Lune. Donc ça a été une course-poursuite incroyable. Et Apollo 8, c'était une prise de risque énorme de sortir de la sphère de gravitation de la Terre. C'était énorme en termes de risque. C'était la première fois qu'on faisait ça directement en mission Apollo. Tandis que là, on l'a fait à vide. Apollo, on ne l'a jamais fait à vide. Et Artemis 2, on utilise du matériel fiable, super connu. Pas faire l'erreur. Quand on voit les photos, c'est un genre de croissant de terre, mais c'est un coucher de terre hein, sur Artemis, et l'autre, c'est un vrai lever de terre. L'homme qui a pris la photo, c'est Bill Anders. S'il ne s'était pas tué dans un meeting en voltige aérienne il y a 2-3 ans, il aurait eu certainement 92 ans. Et il aurait pu faire un commentaire et faire une liaison avec l'équipage de bord pour parler de la Lune au-dessus de la Terre, je veux dire, au-dessus de la Lune. C'était vraiment des photos uniques. Alors il y a eu des sondes japonaises hein, qui ont fait des trucs uniques, on peut retrouver sur Internet, qui ont pris en photo un lever de Terre, mais avec une précision et une qualité d'image. Alors j'ai oublié de dire, vous savez, le standard vidéo, normalement, c'est 4K. Il y a eu très peu de photos dans les opérations de décollage style SpaceX, où on voit bien les grandes étapes. Et là, c'était du 120 en format. Je pense qu'ils vont le faire pour l'alunissage ou le vol prochain Artemis 3. On n'était pas dans le format extraordinaire où on aurait vu des images à la japonaise.
Quand j'écoute tout ce que vous nous dites, Jean-François Pellerin, on se rend compte vraiment que Artemis 2, c'est une mission historique.
Oui, c'est historique parce qu'il y a aussi plein d'expériences scientifiques, par exemple la mesure des radiations, ça c'est très important aussi pour Mars. Et comme il va y avoir une base au sol, pôle sud, pourquoi pôle sud ? Parce que c'est une zone où il y a le plus d'éclairage. Et parce qu'il y a de la glace, il y a de l'eau, donc même la Chine, ils veulent se poser dans la même zone, donc il y a une course en même temps que les Chinois, Si eux, ils allunissent avant fin 2028, on pense que les Chinois vont talonner de 6 mois juste derrière, ou ils peuvent passer devant. Parce que le problème, bon, une mission style Apollo 9 la prochaine, c'est qu'on n'a pas de prêt les allunisseurs, alors que le module lunaire était prêt rapidement, et c'était un système plus classique. Moi, ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est le Starship, parce qu'on a eu quand même des pépins sur des engins où le centre de gravité est différent, parce que l'engin est très haut en taille. Le Starship, c'est un peu ça. Tandis que Jeff Bezos et Blue Origin, ils ont un module en préparation, mais qui ressemble beaucoup plus à un module chinois ou un module d'Apollo. Donc j'ai un petit doute, moi, sur le Starship, mais bon, il va y avoir une compétition entre les deux, et une fois que ça sera opérationnel, ben, ils vont tenter leur mission à Artemis, qui fera une répétition un peu style Apollo 9. Et en orbite terrestre, ils vont répéter la mission du raccrochement du module lunaire, ce qu'ils avaient fait avec Apollo 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'allunisseur n'est pas prêt, et même les scaphandres ne sont pas prêts. Les scaphandres qu'ils avaient orange, c'est des scaphandres légèrement modifiés et adaptés des scaphandres de la navette spatiale, orange, là. Donc on n'est pas prêt sur plein de choses derrière, quoi.
Oui, voilà, Jean-François Pellerin, on ne peut pas s'empêcher de faire quand même un rapprochement, une similitude entre Artemis 2, Apollo 8, et Artemis 3 et Apollo 9. Vous parliez tout à l'heure de la Chine. Est-ce que ça pourrait booster les choses et relancer une course à la Lune, comme dans les années 60?
D'une certaine façon, oui, ça peut relancer. Et je pense que ça va booster les 3-4 premières missions d'Artemis. Certainement que le président américain actuellement va vouloir, avant le 20 janvier 2029, date de sa passation de pouvoir, fin 2028, je pense, 60 ans après Apollo 8, ils vont vouloir faire l'allunissage. Et les Chinois ont dit plutôt 2027. J'ai pas entendu vraiment des gens qui parlent de 2028 pour les Chinois sur la Lune. Mais ça va être très serré, hein. Sur la ligne, ça va vraiment. Et donc, ça booste les Américains, parce qu'ils veulent rester la première puissance mondiale et la première puissance spatiale. Ils veulent montrer aux Chinois qu'il y a 50 ans, ils ont fait des missions sur la Lune, et que là, ils sont capables de le refaire.
Jean-François Pellerin, au-delà de l'émission du symbole, qu'est-ce que la mission Artemis 2 a concrètement permis de tester ou de valider pour la suite du programme lunaire ?
De nombreuses opérations, notamment sur les radiations, qui sont importantes, parce que si vous avez une activité du Soleil, avec des protubérances, une activité très puissante, c'est arrivé sur Apollo qu'ils ont décalé la date de lancement, hein, pour aller vers la Lune. Donc ça, c'est un truc... ils avaient un satellite coréen, mais malheureusement, il est tombé en panne, mais ils avaient d'autres systèmes pour suivre cet aspect-là, qui est très important, parce qu'on l'aura en pire sur Mars, d'étudier les radiations. Alors, j'ai oublié de dire, Apollo était autonome, il pouvait tenir presque jusqu'à 15 jours. Mais Orion, Artemis, c'est 21 jours, c'est 3 semaines. Donc, elle est parfaitement équipée avec son autonomie, elle peut rester 8 jours de plus dans l'espace qu'une cabine Apollo. Alors donc, ils ont fait plein d'expériences, hein. Bon, déjà, les objectifs techniques qui sont importants, ça consiste en particulier à tester tous les systèmes et sous-systèmes du véhicule Orion. Pendant qu'ils étaient autour de la Terre pendant 24 heures, ils ont testé le système de support vie, parce qu'on se souvient des problèmes de carbone qu'il fallait filtrer à bord d'Apollo 13. Ils voulaient avoir la garantie que tout était bon pour déclencher le transfert vers la Lune. Alors, il y a des tests de communication, avec les différentes fréquences, ils ont testé tout ce qui est vidéo, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans le standard qui est prévu normalement, et 4K, c'est exceptionnel de voir les images, hein. Donc, ils ont fait des expériences techniques, électroniques, et par rapport aux missions suivantes, Je pense que les tests de scaphandre, les tests, mais les bêtises comme deux pannes des toilettes, parce que si vous êtes parti pour 3 semaines, il y a plutôt intérêt à avoir des toilettes qui fonctionnent. Et vous savez, c'est même arrivé sur la navette spatiale et c'est arrivé sur la station internationale. On prépare, je pense, au maximum tous les systèmes, donc les équipements de vol. On teste tout. On pourrait presque dire que Apollo 8 et Artemis 2 étaient des vols de test, des vols d'essai. Parce qu'on n'avait jamais fait ça. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. À tout moment, leurs expériences étaient en rapport à tout ce que sera les deux prochaines missions.
Affaire à suivre. On va faire une petite parenthèse musicale avant de poursuivre ce débrief d'Artemis 2 dans À toi les étoiles sur IDFM Radio. Je rappelle que je suis en compagnie de Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission. Juste après cette pause, nous reviendrons sur la dimension internationale de la mission, son écho auprès du public et sur ce qu'il faudra retenir dans l'histoire de la conquête spatiale. Voici M83 avec Midnight City.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio, c'est À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, pour cette 234e émission intitulée Artemis 2, retour sur une mission historique, je reçois Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, cette mission marque aussi une nouvelle étape dans la coopération internationale. En quoi cela change-t-il la physionomie de l'exploration lunaire d'aujourd'hui ?
Alors, ce que ça change, c'est que Apollo, il n'y avait qu'un seul pays, les USA. Mais vous savez que Kennedy et Khrouchtchev avaient imaginé une coopération américano-soviétique. Mais ils sont morts, un assassiné et l'autre est décédé. Donc ça n'a jamais eu lieu. Donc il y a un seul pays pour Apollo. Ils sont tous américains. Tandis que là, Artemis, ils sont quatre. C'est un équipage international, le prochain vol ça sera un japonais et non pas un canadien, ils sont beaucoup plus nombreux, la capsule Orion est 30% plus grande que celle d'Apollo, donc c'est pas le même ordre d'idées. Et il faut savoir aussi une chose qui remonte à Jim Bridenstine sous le mandat de Trump 1, qui était le patron de la NASA, et c'est lui qui a organisé tout le projet. Le nom Artemis, on l'avait déjà, il a fait signer des accords avec une cinquantaine de pays. Donc c'est la Lune en mode international. Vous voyez, c'est quelque chose, ça permet de tout financer. Et à l'inverse d'Apollo, où on a eu jusqu'à 3 ou 4 missions par an, là, il y aura une, maximum 2 missions par an. Mais à chaque fois, ça sera une mission équipage international, mais une mission très complexe. On peut aller jusqu'à 3 semaines. Et ce qu'on veut tester, d'ailleurs, Robert Zubrin, le patron de la Mars Society, il est content de l'annulation de la Gateway. Vous savez, la petite station internationale autour. Ils préfèrent, et beaucoup préfèrent, cette fameuse option d'aller directement au sol, récupérer peut-être des modules de la Gateway, parce qu'il y en a fabriqués en Italie, et d'installer, d'enfouir probablement à cause des radiations, et de faire une base comme Concordia en Antarctique. Donc, là, c'est le pôle sud, l'Antarctique, c'est le pôle sud, donc vous voyez, et entre les premiers conquérants du pôle sud et le moment où on a commencé à faire la même station, il s'est écoulé plus de 50 ans. Vous voyez, c'est intéressant de voir la similitude.
Effectivement, Jean-François Pellerin, et puis on parle aussi de la Lune comme tremplin en direction de la planète Mars.
Oui, ça c'est une option, parce que à 1 km par seconde et demi, vous échappez la traction lunaire et vous pouvez très facilement aller sur une trajectoire avec les points de Lagrange notamment et aller vers Mars. Mais c'est pas encore figé, hein, vous savez tout ça. Musk, je pense qu'il a une grande priorité martienne avec le Starship. principe. Mais il ne veut pas, peut-être par la fierté d'être un leader du spatial, avoir le premier, la place avec l'alunisseur pour Artemis. Mais ça peut être Jeff Bezos. Mais il est beaucoup plus martien, Elon Musk. Donc pour lui, c'est pas forcément décoller et partir de la Lune.
En ce qui concerne le grand public, Jean-François Pellerin, est-ce que selon vous, Artemis 2 a réussi à recréer un peu cette fascination collective que les missions lunaires avaient suscité à l'époque d'Apollo ?
Alors avant de parler des médias, je vais vous donner le chiffre. Au Cap Canaveral, dans la zone là, pour le décollage, il y avait eu 2 millions de personnes pour Apollo 11. Là, il y en avait 500 000. Mais ce n'est pas une mission aussi Apollo 11. Je pense que la mission d'alunissage, on pourra certainement monter à 1 million de personnes. Et même sur la zone d'amérissage, il y avait plein de gens, des centaines et des milliers de personnes. Donc l'engouement est en train de revenir, mais à cause de la guerre en Ukraine, de la guerre en Iran, on se retrouve un peu comme une situation d'Apollo avec la guerre du Vietnam. Donc ça, faut pas oublier ça. Et l'engouement dans les médias, je crois que c'est BFM en télévision qui a fait 3 heures d'enregistrement avec la présence notamment d'astronautes comme Jean-François Clairvoy, qui est quand même reconnu comme un homme de médias et un très bon vulgarisateur. Comme vous le voyez sur un plateau, il a les yeux qui brillent. Mais dans les médias, il a quand même fallu attendre la veille ou l'avant-veille pour qu'on nous parle de la mission à Artemis 2 en disant qu'il y aura bientôt un équipage vers la Lune. Alors que Apollo 11, même aux États-Unis, même en France, au moins 8 ou 15 jours avant, on avait plein d'informations. Donc c'est ça qui est différent pour moi.
Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain de cette émission À toi les étoiles. On débrief Artemis 2 qui a été un grand succès. Et quelle est la suite des événements désormais avec Artemis 3, Artemis 4?
Là, ce qui va être important, on va voir l'alunissage Artemis 4. Et ce qui est déjà important, c'est qu'on a déjà les modules européens des 2 missions suivantes, presque les 3 missions suivantes. Et dans ces 3 missions suivantes, le premier, il ne marchera pas sur la Lune, l'Européen. Il restera autour de la Lune, en orbite, en restant longtemps, puisqu'il y a 21 jours, c'est plus qu'Apollo. Et il y aura certainement un Italien ou un Allemand. Et bonne surprise, le vol suivant, il y a l'alunissage d'un Européen. Et actuellement, on pense à Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet a renforcé sa formation en faisant notamment de la géologie. Et il a piloté l'Airbus 0G pour faire de l'apesanteur lunaire, de l'apesanteur martienne. Donc il s'est beaucoup entraîné. Et vous avez une zone qui s'appelle Luna à Kololj, qui est une zone de petits cratères lunaires, où il a fait des simulations de marche avec combinaison. Donc il aura environ 55 ans. On pense aussi à Sophie Adnaud, mais moi, à mon avis, je pense qu'elle, vous savez peut-être, ISS a été décalé jusqu'à 2032. Donc je pense qu'elle fera peut-être un deuxième vol autour de la Terre, et c'est ensuite dans une autre série Artemis qu'elle pourrait, comme elle est pilote d'essai hélicoptère, elle a une super formation, et elle est beaucoup plus jeune que Thomas Pesquet. Donc je pense que Thomas Pesquet, il est en bonne position. Et après, je ne sais pas, parce que après, le module de service qui propulse, qui vient de l'Europe, je crois qu'il n'est pas construit, il n'a pas été envoyé aux États-Unis. Donc cette mission-là, je ne sais pas. Et on parle, c'est des bruits qui commencent à se faire entendre. Des gens pensent que 2030 ou 2035, on arrêtera la fusée SLS. Et on prendra une fusée Super Heavy Starship, parce que c'est moins cher, beaucoup moins cher, parce qu'un vol Artemis, c'est quand même 4 milliards de dollars. Hein. Une mission navette spatiale, c'était 2 milliards et demi de dollars. Vous voyez les différences, hein, c'est deux fois plus coûteux. En réutilisant les systèmes de la navette, les plafonds sont pratiquement identiques, donc il y a une réduction de coûts, mais on n'est pas à la part de PIB énorme d'Apollo, parce que il y a une cinquantaine de pays derrière, avec tout un tas de tâches, de modules d'atterrissage, cargo pour amener du matériel, etc. Donc, faut pas oublier de ce contexte international.
Et c'est ça qui fait plaisir, Jean-François Pellerin. Contrairement aux missions Apollo, où chacun faisait dans son coin, là, on travaille vraiment main dans la main à l'international.
Oui, mais il n'y aura pas plus d'une personne non américaine à bord, hein, je pense. Ça sera toujours très strict, au maximum peut-être deux, mais on parle plutôt que d'une seule personne. Le prochain vol, ça sera un Japonais. Mais c'est quand même curieux, vous voyez, là c'est un Canadien. Et ce qui est étonnant, on a fait une communication avec Sophie Adnault. C'est la première fois que quelqu'un autour de la Lune parlait la langue française. On n'avait jamais fait ça. Donc le prochain, ça sera un Japonais. Et regardez ce qui est étonnant, c'est que le module de service derrière Orion, avec les moteurs qui propulsent l'engin vers la Lune, c'est 100% européen. Et les deux premiers vols, c'est canadien, japonais, il n'y a même pas d'européen. Donc c'est quand même très dur à reconnaître les faits. Donc le président américain actuellement n'a pas beaucoup de très bons contacts avec certains pays, comme l'Italie, comme l'Allemagne, etc. Et eux, ils ne marcheront pas sur la Lune. Allemands ou Italiens sur le premier vol d'alunissage, ils resteront autour de la Terre. Donc Thomas Pesquet, Sophie Adnault ont de fortes chances d'être placés comme des astronautes qui vont à l'UNIR.
Waouh, des Français sur la Lune, mon plus grand souhait. À suivre donc, vous êtes sur IDFM Radio dans À Toi les Étoiles en compagnie de Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique et parrain de l'émission. On marque une dernière pause musicale et juste après, nous reviendrons sur l'essentiel de cette mission pour conclure ce débrief d'Artemis 2, retour sur une mission historique. Voici Vianney, comment on fait ?
Danser dans ce drame, le prendre à la légère.
IDFM Radio, 98 FM.
De retour sur IDFM Radio, que vous pouvez également écouter sur Internet ou encore sur le DAB+. Vous écoutez À Toi les Étoiles, votre rendez-vous d'astronomie chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, pour cette 234e émission intitulée Artemis 2, retour sur mission historique, je reçois Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À Toi les Étoiles. Jean-François Pellerin, durant cette mission Artemis 2, il y a eu aussi des moments humoristiques.
Oui, et puis ça m'a rappelé la conversation Richard Nixon avec Armstrong et Buzz Aldrin, où là c'était un vrai dialogue, où il disait « Merci Monsieur le Président ». Et Trump, c'est curieux ça, c'était même humoristique, son dialogue, c'était comme un texte qui était tout préparé, c'était une genre de monologue où l'équipage n'avait pas trop le droit de parler, ils ont juste pu faire des applaudissements, des sourires, ça avait rien à voir Apollo 11 et Richard Nixon. Bon, symboliquement, c'est quand même une communication entre la Maison Blanche et un engin qui est parti très très loin. Alors tout ce qui est humoristique, oui, il y a toujours des choses humoristiques, mais il y a des choses tristes aussi. Le commandant, plusieurs jours avant, il a perdu sa femme. Et s'il n'y avait pas eu un report d'un mois, sa femme, de son vivant, elle aurait pu voir son mari tourner autour de la Lune. Et c'est pour ça que le commandant, à un moment donné, voyant la Terre, il s'est mis à pleurer, et il a donné un nom de baptême, Carole, à un cratère. Il faut attendre la décision, vous savez, de la Fédération Astronomie, etc., pour pas qu'il y ait plusieurs noms sur le même cratère. Et c'est une chose triste, un peu comme Apollo 11. Neil Armstrong avait perdu une petite fille peu de temps avant, et il a lancé, je crois, me souvenir, un petit bracelet. Vous savez, la tradition, par exemple, avant le décollage, il y a une tradition, il joue aux cartes avec le directeur de vol. C'est une tradition qui existe depuis longtemps. par exemple, le JPL, quand des sondes arrivent sur Mars, on attend le décollage et l'autre, je crois qu'on mange des cacahuètes ou des choses comme ça. Donc il y a plein de traditions. Les Russes, il y a une tradition où ils voient un film qui est toujours le même depuis Gagarine. Et pendant l'autocar qui les emmène, ils urinent sur les pneus de l'autocar pour faire comme nourri Gagarine. Bon, ça c'est complètement acquis depuis 65 ans, puisqu'il y a 65 ans, c'était le vol de Gagarine.
Jean-François Pellerin, sur la couverture de cette mission Artemis 2, on a eu aussi des youtubeurs qui ont présenté...
Ah oui, oui, les youtubeurs, et... c'est mieux que la télévision. Moi, ça m'arrive de, je ne sais pas si vous connaissez, de regarder UFO Clinique, parce qu'il y a une équipe solide derrière qui prépare tout, et quelquefois, il fait des directs. Ben toujours en français, ce qui est assez rare. Il y a les deux frères, j'ai oublié leur nom, il y a Technique Spatiale, donc il y a un bon nombre de youtubeurs qui font parfois quelque chose de qualité bien meilleur que dans les chaînes d'infos ou la télévision. Hein.
Exactement, et ces youtubeurs commentaient en direct, et moi je voudrais tirer mon chapeau à Vincent, qui est propriétaire de la chaîne Stardust, puisque lui, ce qu'il a fait, il s'est calqué sur le mode de vie des astronautes. C'est-à-dire, quand les astronautes dormaient, ils dormaient. Et quand les astronautes étaient éveillés et qu'ils vaquaient à leurs occupations, eh bien, Vincent faisait un direct aussi longtemps que ça durait pour expliquer en direct ce qui se passait. Alors parfois, c'était pas vraiment intéressant, hein, parce que c'était, voilà, il nettoyait, par exemple, ou autre chose. Mais voilà, il était toujours là pour alimenter le direct et il trouvait toujours quelque chose à dire. Donc chapeau à Vincent de Stardust.
Ouais, oui, c'est pas mal les... comme idée, parce que... Il y a des périodes en chronobiologie et le cycle circadien, il y a des périodes où on dort, où on travaille, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est comme la station internationale, il n'y a pas quelqu'un qui fait le guet. Quand on dort, tout le monde dort. Et Apollo et Artemis, c'est un peu le même genre de système. À part Apollo 13, parce qu'ils étaient hyper fatigués dans le sauvetage. Quelquefois, il y en a un qui se mettait dans un hamac et il se reposait. Et deux autres étaient occupés avec les voyants d'alarme et toute l'ambiance qu'il y avait. Mais c'est vrai, même là-haut, les astronautes, quand ils dorment, tout le monde dort. Il n'y a pas quelqu'un qui surveille la station. La station, elle est surveillée par le centre de contrôle de Moscou ou de Houston.
Jean-François Pellerin, on arrive bientôt au terme de cette émission À toi les étoiles. Encore quelques questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'Artemis 2 dans l'histoire de la conquête spatiale?
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été capable, mais on a mis beaucoup de temps. Il y a eu des projets Constellation, il y a eu le projet de Bush père, Bush fils, d'Obama. On a quand même eu un problème à l'allumage, quoi, pour se dire vraiment, ben maintenant, on le fait, quoi. Et pendant une période de 20-30 ans, on faisait des projets sur la comète, on faisait des plans, des schémas, et c'était une vision uniquement nationale américaine, donc c'était complexe à gérer. Donc, le côté de faire monter un astronaute étranger, ben, c'est ça le nouveau d'Artemis 2, Artemis 3, etc. Les moyens techniques sont plus importants, l'informatique, l'électronique, tout ça, c'est la modernité des années 2020, tandis qu'à l'époque, c'était les années 60, hein. C'était pas la même électronique, etc. Donc Artemis prépare, et c'est l'une des pierres de tout l'édifice qui va se préparer demain, mais je pense entre 2030-2035, on n'aura plus cette fusée-là, parce qu'elle est coûteuse. Et c'est là que Musk va rentrer en ligne avec Super Heavy Starship pour gérer totalement une mission lunaire. Et puis ça va l'entraîner lui pour son vol martien. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça peut être Bezos, hein, le module lunaire. Donc voilà ce qu'il faut retenir d'Artemis 2. Une preuve, c'est que l'Amérique est capable de refaire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 50 ans. Mais je crois que ça c'est quand même important. Et ils ont emmené des choses à bord je crois qu'ils ont emmené un morceau de navette spatiale, je ne sais plus laquelle, d'une qui a explosé. Il y a un morceau aussi d'avion qui avait été déjà fait une fois, de tissu de l'avion des frères Wright, premier vol humain d'un avion. Le père des frères Wright avait dit, oui, pour voler en avion, il faudra attendre des millions d'années. Et ça s'est fait très peu de temps après.
C'est l'évolution, Jean-François Pellerin. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles, consacrée à Artemis II. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Jean-François Pellerin, et d'avoir débriefé ce vol d'Artemis II avec moi.
Oui, mais c'était une bonne chose, parce que vous avez fait ça en deux émissions, et merci au petit mot sympa du DG de Nomad Aventure. J'ai entendu dire qu'il avait 23 personnes pour emmener tout l'équipage pour voir le décollage. Et je pense que c'était une bonne idée de faire ça en deux fois. Au départ de Floride, bon, il était complet, mais ça prouve que ça va très très bien marcher, hein, toutes les missions Artemis.
Effectivement, nous avons couvert cet événement d'Artemis 2 en deux émissions. La première, Artemis 2 cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune avec Fabrice Deltaglia, le directeur général de Nomad Aventure, hein, dont vous avez parlé, et qui a emmené 23 personnes en Floride assister en direct au lancement d'Artemis 2. Et puis, le débrief de la mission Artemis 2 avec vous-même aujourd'hui. Et on ne manquera pas, bien sûr, dans les futures émissions À toi les étoiles, de suivre les futures missions Artemis. Merci beaucoup Jean-François Pellerin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans À toi les étoiles sur cette mission exceptionnelle.
Voilà, merci et à très bientôt.
Merci également à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous étiez à l'écoute d'IDFM Radio dans À toi les étoiles avec Franck. Votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Je vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin à 13h, jour de la fête de la musique, pour une nouvelle émission en compagnie d'Olivier de Boursac. Nous parlerons alors du 50e anniversaire des sondes Viking 1 et 2 lancées en 1975 et mises en orbite autour de Mars en 1976. Et notez également qu'un rendez-vous spécial vous sera proposé le dimanche 19 juillet avec une émission consacrée à l'éclipse du 12 août 2026. Notez bien dans vos agendas. Merci à toutes et à tous. Passez un bon dimanche. Tout de suite, c'est la suite des programmes d'IDFM Radio. Et n'oubliez pas, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Au revoir à tous. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.